des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
J'ai lu un livre en fin de semaine, Revendiqué pour construire. Il m'a dit, c'est drôle, c'est le fun. Il raconte, non, c'est ma vision du syndicalisme enseignant, parce que c'est le temps d'en parler avec José Scalabrini, avec qui moi, je me suis souvent chicané. Elle est vraiment là, un sale caractère. Elle est justement avec nous, Madame Scalabrini, bonjour.
Bonjour, c'est sûr qu'il y a toujours un côté de la médaille, donc ouais, c'est tout mon mauvais caractère.
Hey, vous en avez un méchant, hein?
Ah,
non,
oui?
Ben non, mais ben, je lisais ça là jusqu'à Mont-Laurier, puis de vous imposer comme ça dans le monde syndical, vous pouvez pas arriver là en mouton là, puis en brebis tout effarouché.
Non, puis c'est ce que j'explique. On vient pas au monde syndicaliste. On est des êtres humains qui vivons, qui accumulons les expériences et qui se forgeons une personnalité qui nous mène à être ce que l'on est et à vouloir tenter d'influencer les valeurs qu'on a dans un monde qui parfois est très différent de ce qu'on imaginait au départ.
Vous avez vu, hein, il y a Régent Parent qui, dans le Journal Montréal, vous a félicité parce que pour votre collaboration, puis on s'est chicané, vous et moi, là-dessus. Là, c'est des fois, on a l'impression que vous, que tu sais, entre autres, la Fédération des syndicats d'enseignement collabore pas volontairement ou avec le sourire avec le gouvernement. Mais là, pour le temps des fêtes, je vais revenir au livre tantôt, là, mais pour le temps des fêtes, vous avez dit oui, les enseignants, les enseignantes, parce que c'est principalement des femmes, veulent garder un lien avec les élèves.
Ben, c'est le type de syndicalisme que les enseignants nous ont demandé d'avoir il y a à peu près 12 ans, quand les enseignants étaient tannés, qu'on ne montre pas les bons côtés de ce qu'ils sont. Je vais toujours m'indigner, m'imposer, puis critiquer quand on atteint les conditions et qu'on va à l'encontre de la réalité des enseignants. Mais un enseignant, c'est aussi un citoyen, je l'ai souvent dit, qui a des points qu'il veut faire connaître. Et quand on est capable de contribuer en tant qu'enseignant à ce développement-là de la société, faut jamais oublier de le faire.
Vous, là, Mme Scalabrini, vous êtes poignée avec deux sujets vraiment vraiment tendus, là. D'abord, le syndicalisme et le monde de l'enseignement. Puis vous écrivez dans le livre là que chez vous, dans votre famille, il y avait de la chicane avec votre père, parce que surtout pour parler de syndicalisme, puis même quoi, c'est votre tante qui a sorti votre père de chez elle. Mais il y a eu de la chicane là, à cause du syndicalisme dans votre famille.
Ben, quand vous me regardez aller, vous voyez que j'ai pas peur de mes opinions. Donc,
j'ai remarqué,
famille où qui a pas peur de ses opinions. Donc, on a souvent eu des confrontations, des divergences d'opinions où ça débattait très fort. Mais la sagesse, je pense, en tout cas moi, ce que j'ai toujours apprécié chez nous, quand on se rendait compte que de toute façon, les opinions ne changeraient pas et que là, ça pouvait dégénérer, les gens savaient à un moment donné s'arrêter puis dire, coudonc, travaillons à développer ce auquel on croit les uns les autres, et on s'est toujours respecté là-dedans parce qu'il y avait aussi beaucoup d'amour, pis ça, je tiens à le dire.
Bon, vous êtes à la page 24, là, vous dites, je crois qu'on ne devrait pas porter de jugement sur ce qu'on connaît peu et qu'il faut accorder du crédit à ceux qui s'y connaissent. Là, je vous ai reconnu. Là, c'est vous, ça. Là, vous voulez qu'on soit toujours d'accord avec vous, pas s'obstiner avec vous parce qu'on n'est pas enseignant, donc on sait pas de quoi on parle. Là, je vous reconnais, Mme Scalabrini.
Et c'est pas ça qui est écrit. Ce que j'ai voulu dire, c'est que la réalité enseignante, là, notre quotidien, puis notre relation avec l'élève, puis l'apprentissage, là, si les gens savent pas de quoi il s'agit, on aime mieux qu'ils en parlent peu et qu'ils nous écoutent quand on parle. Ce qui a mené l'éducation là où on est présentement, c'est que trop peu souvent on nous a écoutés. On le fait, là, la tentative de, il y a des gens plus haut qui prennent des décisions puis qui imposent du mur à mur à tout le monde. Ce que les enseignants nous ont dit il y a un certain temps, nous autres, on veut faire partie de la solution. On le sait ce qui se passe, puis on veut que nos idées soient portées. Mmh. On veut être là pour notre profession, parce que chaque fois qu'on améliore notre profession, on améliore les conditions d'apprentissage des élèves, et c'est ça qu'on veut porter. Et c'est là qu'on dit, les gens, là, c'est pas parce qu'on est allé à l'école un jour qu'on connaît tous les rudiments de l'enseignement. C'est plus que ça, une journée pour un enseignant. Et c'est là-dessus qu'on s'offusque des fois quand on voit qu'il y a trop de gens qui veulent se mêler de notre profession.
En même temps, c'est nos enfants, puis on veut aussi qu'il y ait un service. Puis moi, j'ai un reproche à vous faire. Là, on va parler du livre aussi, là, mais j'ai un reproche. Dans votre livre, vous parlez beaucoup de négociations, beaucoup de conditions de travail, beaucoup d'argent, vraiment très peu des élèves, des étudiants. Vous parlez à la page 152 du suicide d'un de vos élèves qui vous avait marqué, là, puis on peut le comprendre. Mais je trouve que cet aspect-là, là, puis vous dites, Sébastien Proulx l'a écrit, Jean-François Roberge a écrit un livre, c'est à mon tour d'en écrire un. Mais j'aurais aimé ça que vous parliez plus de votre rapport aux élèves.
C'est parce que ce que je veux pas qu'on oublie, là, c'est d'abord et avant tout que je suis la représentante des enseignants. Moi, là, la présidente de la FSA, c'est d'abord et avant tout la représentante des enseignants. Et cette femme-là est capable de dire qu'elle a pu remarquer dans la vie que dans les milieux où on prend soin des enseignants, on prend soin des élèves. Et c'est ça qu'on a voulu faire ressortir. Tu sais, je vous le dis, là, ça a été un grand deuil pour moi, cet élève-là, là, ce grand clown-là, ouais, que j'aimais tellement, qui s'est suicidé, puis de remarquer que j'avais rien été capable de faire pour lui, parce que j'avais manqué de moyens. Les années où on avait avec nous des professionnels de la santé pour nous appuyer quand nos élèves frappaient un mur et qu'on pouvait diriger nos élèves vers ces gens-là, c'était plus profitable pour tout le monde. On a coupé en éducation et maintenant, on est le reflet d'une société qui n'a pas priorisé l'éducation. Et mon livre, il veut se dire là, si j'ai une capacité d'influence présentement, c'est au moment où je suis encore en poste, je suis capable de dire quels sont nos besoins et pourquoi on veut valoriser la profession et pourquoi on veut qu'il y ait une réelle priorité en éducation. C'est ça que je veux tenter de faire.
En passant, juste une parenthèse, ce vendredi, moi, j'ai enregistré l'émission « Ça finit bien la semaine » avec Julie Bélanger et José Godet, et je parle des enseignants. J'ai informé mes collègues qu'après 4 ans de formation universitaire, une enseignante gagne 42 000 $. 42 000 pour s'occuper de nos enfants. Et là, je pense qu'il est temps qu'on s'occupe mieux de nos enseignants. Là-dessus, là, je suis d'accord avec vous, là. C'est sous-payé comme métier, sous-payé.
Et c'est ça que les enseignants nous ont dit, hein, avant même qu'on amorce une négociation qui n'a toujours pas lieu, là. Mais quand on préparait ce qu'on souhaitait pour la négociation, il y a 2 éléments qui revenaient. Dans le passé, c'était toujours conditions de travail. Maintenant, ils nous ont dit, comme on réalise qu'il y a des beaux discours qu'on réussit pas à les avoir, ces conditions-là, on pourrait-tu au moins être payé à la hauteur de ce qu'on mérite comme enseignant pour faire le travail que l'on fait présentement? Fait qu'il y a 2 grandes revendications. Effectivement, nos conditions qui vont aider les conditions d'apprentissage, nos conditions de travail, et le salaire qu'un enseignant pourrait avoir comme les autres enseignants au Canada.
Et là, ma job, Mme Scalabrini, c'est de vous dire, oh, arrêtez donc de chialer, vous avez 2 mois de vacances pendant l'été. Vous êtes gradueux.
Vous savez que j'ai pas 2 mois de vacances et que l'enseignant n'a pas 2 mois de vacances. Ouais, l'enseignant est payé pour 200 jours de travail. Mm-hmm. Son contrat de travail, c'est 200 jours.
Vous voyez, vous commencez à vous pomper, là. Nous, on parle de votre livre, là. Fâchez-vous pas, là. C'est pas... Là, vous, à la page, votre mère est enseignante, hein?
Oui, ma mère, ma grand-mère, puis une de mes arrière-grand-mères.
OK, donc c'est génétique, cette affaire-là, chez vous. Puis à un moment donné, elle a débarqué à vos débuts pour vous donner des conseils pour améliorer votre enseignement, ne pas y laisser votre peau. Expliquez, parce que là, ça manque de détails, ce bout-là. Là. Expliquez-moi ce que vous vouliez dire, puis comment, quels conseils elle vous a donné?
Quand je suis arrivée dans l'enseignement, comme tous les enseignants présentement, il y avait très peu d'insertion professionnelle. On avait fait un bac, donc on était des enseignants et on était capable d'enseigner. Et ma mère, vous l'avez vu aussi dans le livre, à ce moment-là, combattait une maladie, le cancer.
Ouais.
Mais quand elle a eu fini ses traitements, elle est venue à Mont-Laurier me rejoindre, puis elle m'a demandé de l'amener visiter mes classes, parce qu'une enseignante, on a différentes classes dans l'école. Et quand elle est rentrée dans mes classes, elle m'a dit, Josée, où est-ce que tu te protèges? Parce que pour elle, j'avais pas réussi à établir ma bulle à moi d'enseignante.
Ça, c'est à quel niveau?
J'étais, à ce moment-là, j'enseignais en secondaire 3 et 4.
OK. Oh, ça, c'est un défi. Ouais.
C'était tout un défi, je peux vous le dire.
Votre mère vous a dit, protège-toi, là, tu vas y laisser ta peau. Alors, c'était quoi les mesures de protection?
Ben, elle a commencé par dire, là, les élèves qui sont assis à ton bureau, là, présentement, là, on va reculer ça un petit peu, Josée, là. Puis, c'est parce que j'avais une toute petite classe, j'avais pas le choix. Mais elle m'a dit, c'est pas grave, toi, recule-toi vers le mur, protège-toi, accepte que tu n'as pas toujours toutes les solutions. Accepte qu'au niveau de la discipline, tu commences, puis que c'était bien beau faire des stages, mais que la réalité maintenant, quand tu as toute la responsabilité, ben, tu vas faire des essais-erreurs. Va demander à tes confrères et tes consorts de travail de t'appuyer. Eux autres, ils ont de l'expérience. Mmh. Quand tu as une situation, garde-les pas pour toi tout seul, parce que tu vas toujours avoir le sentiment que tu es l'incompétente. Puis c'est pas vrai, tu n'es pas incompétente. Tu arrives, toi, à apprendre dans le métier, même si une enseignante présentement.
Madame Scalabrini, on sent aussi votre exaspération face à ce que vous appelez les émissaires, la page 78. Les émissaires du ministère vendaient leur salade comme si tout ce qu'ils proposaient venait d'être découvert. La pédagogie par projet devenait la panacée comme si ça, si cela n'avait jamais existé. En lisant ça, tu dis, il y a du monde payé au ministère de l'Éducation pour faire une réforme puis une autre, puis avoir une idée de prix Nobel, alors que sur le terrain, on vous consulte pas, puis sur le terrain, c'est rien de nouveau pour vous.
C'est ça qui était aberrant. C'est que tout nous était... Quand la réforme est arrivée, on l'a appelée la réforme, puis plus tard, on l'a appelée le renouveau pédagogique, parce que le gouvernement s'était rendu compte que ça devenait dangereux de l'appeler la réforme. Mais on découvrait que tout ce qui nous était demandé, on le faisait comme enseignant. Mais comme les gens qui avaient été amenés à venir nous présenter cette réforme-là avaient été mal préparés, qu'on n'avait pas pris le temps de bien faire les choses et qu'on avait voulu y aller dans un mur à mur plutôt qu'avancer tranquillement dans les changements et y aller en projet pilote, ben, le message se rendait très mal et les enseignants se faisaient dire « Non, c'est plus bon ce que tu faisais avant. Tu mets tout ça à la poubelle puis on repart à neuf. Ouais. » Ceux qui ont mieux passé à travers, c'est ceux qui ont été capables de dire « Regarde, j'étais pas complètement à côté de la traque avant. Je suis pas à côté de la traque présentement. Je vais prendre mon expérience pour continuer à avancer. Je vais m'ajuster aux nouveaux programmes qui nous arrivent. Je vais m'ajuster aux grandes balises qui sont données. Mais c'est pas vrai que je vais jeter tout ce que j'étais à la poubelle pour repartir à neuf. Et c'est ce qui nous a permis de survivre dans ces années très difficiles-là.
Mais là, 20 ans plus tard, là, la réforme, ça a-tu marché? Ça a pas marché? Y a-tu des bons côtés puis des mauvais?
Heureusement qu'on a été capable de redresser des choses parce que c'est plus du tout cette réforme-là qui nous avait annoncé. On se rappellera qu'au début, là, c'était supposé d'être une réforme sur les programmes. On voulait rediscuter de ce qu'on devait enseigner ou pas à l'école. Et quand ça a atterri dans nos milieux, c'était comment enseigner qui venait chambarder tout ce qui devait être là. Il y a eu de grands échecs à cette réforme-là, mais parce qu'on a travaillé très fort à réajuster les choses, ben, moi, je pense que c'est pas les élèves qui en ont souffert, c'est le personnel de l'éducation qui a souffert de ces grandes tentatives-là et que maintenant, si on prend le temps de se parler, on vit quelque chose d'exceptionnel présentement, il y a des choses à reconstruire, puis tout ce qu'on est en train de vivre avec les nouvelles technologies, tout ça va nous amener à se repencher sur ce que sera l'enseignant de demain, mais on espère que c'est avec nous qu'on va tenter de faire ces changements-là.
Ouais, vous écrivez aussi, José Scalabrini, selon l'Institut de recherche et d'intervention socio-économique, l'IRIS, de 2005 à 2015, 1 milliard de coupures de compression budgétaire en éducation. Et si on ajoute 2003-2018, ça fait 1 milliard 400 millions. Et pourtant, dans les femmes que vous admirez, il y a Pauline Marois qui est à la source de la réforme aussi. Vous avez eu des femmes ministres, il y a eu des hommes ministres. Il y en a eu, je sais pas, 7-8. Là, on dirait que c'est toujours à recommencer. On en donne, on en enlève, on change. Jean Charest arrive puis il dit là l'anglais en 6e année, ce qui est une bonne idée. Michel Courchesne arrive puis il dit là on va mettre des notes. Puis vous là-dedans là, vous devez toujours réagir.
On est toujours en réaction parce qu'on a toujours à combattre avec le discours de tous les gouvernements qui disent, qui tiennent le discours que l'éducation est une priorité, mais quand ils se revirent de bord, qui vont beaucoup plus là où les choses paraissent, quand on refait une autoroute, quand on refait une route, quand on bâtit un bel édifice, ça paraît, ça saute aux yeux. Mais quand un enfant n'a pas les services auxquels il a besoin, ça paraît moins ça. Donc, on donne l'impression qu'on s'occupe de nos enseignants, de nos infirmières, de nos enfants et de nos gens malades au Québec, mais souvent, ce sont les grands oubliés parce qu'on va vers ce qui paraît bien dans la société.
Vous avez eu combien de mandats, là? Je l'ai lu, là, j'ai oublié de le noter, là, la présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement, la FSE.
Je suis présentement à mon 3e mandat.
À votre troisième mandat. Alors, le meilleur ou la meilleure ministre d'Éducation que vous avez croisée?
Je veux pas nommer ou la meilleure. Vous savez que je jouerai pas là-dedans.
Envoyez donc, mais... là. Celle que vous avez trouvée la plus efficace, disons, là.
Il y a des gens qui parlaient beaucoup, qui faisaient peu. Il y a des gens qui étaient pas de bons communicateurs, mais qui étaient à l'écoute quand on allait leur parler. Autant au niveau de la santé que de l'éducation, c'est un milieu très, très dur parce qu'il y a des lobbies très, très forts et il y a des ministères très forts qui aiment pas beaucoup aller sur le terrain. Mais j'ai le goût de vous dire qu'on apprend beaucoup dans la crise qui est en train de se vivre. Et quand on vit des choses comme la semaine dernière où on a eu un ministre qui a été à l'écoute parce qu'on est arrivé avec des arguments, parce qu'on est arrivé avec ce que les enseignants nous avaient dit en 4 jours. J'étais en colère qu'on n'ait pas été consulté avant que les ballons soient envoyés dans l'espace public. Mais parce qu'on a su se revirer de bord sans les hypothèses, mais aller s'argumenter auprès des enseignants pour dire qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui va être le mieux pour vous, enseignants, mais aussi pour l'élève, ben ça l'a influencé. On espère que les gouvernements apprennent d'une situation comme ça et qu'ils vont venir à l'avenir nous consulter.
Donc, c'est M. Roberge.
J'ai pas dit ça. J'ai nommé personne. Mais j'ai dit que le geste qui s'est posé la semaine passée...
Vous l'appréciez.
Pour nous, est un geste très apprécié.
OK, donc, c'est pas M. Roberge.
J'ai pas dit ça non plus.
OK, dernière affaire.
Je vais vous donner un exemple.
Oui, avant qu'on se quitte.
On voit souvent repartir. Là. Beaucoup de gens ont frappé sur le ministre Bolduc pendant un certain temps. Là.
C'était pas grave qu'il n'y ait pas de livre.
C'est ça. Ouais. J'ai le goût de vous dire que c'était un très mauvais communicateur. Ça, il y a eu des erreurs épouvantables. Mais comparativement à d'autres ministres, je peux vous dire que quand on allait présenter un dossier, il était quand même à l'écoute. Là. Mais ça n'a jamais ressorti nulle part, et je le comprends. Un ministre qui ne savait pas ce qu'il faisait là, puis ça, je suis pas gênée de le dire, qui n'avait pas compris son rôle, c'était à l'époque le ministre Blais qui n'avait pas compris François quel était Blais. Son rôle de ministre, François ouais. Blais.
Et qui venait du monde des études supérieures, en plus.
Absolument.
Mais tout ça, là, votre monsieur Bolduc, là, c'était pendant qu'on coupait des milliards, là, des centaines de millions.
Le gouvernement coupait, et que sur le terrain, c'est nous qui ressentions la problématique.
OK. Dernière affaire, je vais vous poser à la page 121. Avez-vous gardé vos souliers de fraîchier pour aller négocier?
Quand je vais en manifestation, j'ai plutôt des souliers de marche maintenant. Je ne vais plus jamais juste avec mes petits souliers vernis.
Faut apprendre de ses erreurs, qu'est-ce que vous voulez faire. On est tous pareils. Revendiquer pour construire ma vision du syndicalisme enseignant aux éditions Septentrion, José Scalabrini. Pour ceux que ça intéresse, le mouvement syndical de tout l'enseignement, mais aussi l'évolution de l'école au Québec. Madame Scalabrini, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Bonne chance.
Merci à vous, M. Dutrisac.
Au revoir.